Vieilles Branches, une production Nouvelles Écoutes en partenariat avec Radio Nova.
On est peut-être un peu plus insolent quand on a des années au compteur, parce qu'on a plus rien à cirer et qu'on a aussi envie d'être vrai.
Pour cet épisode de Vieilles Branches, on est parti à la rencontre de Macha Merrill, chez elle, à Paris. Macha Merrill, une grande comédienne de la Nouvelle Vague, qui a vendu des centaines de milliers de livres de cuisine avant d'apparaître régulièrement dans Les Grosses Têtes, puis sur les planches de théâtre. Encore une de ces personnes qui a tenté mille vies avant ce qui semble être sa préférée, tant le sujet revient inlassablement dans la conversation, la vie d'amoureuse de Michel Legrand, grand compositeur de musique, aujourd'hui décédé, qu'elle avait rencontré très jeune, oublié à moitié, avant d'être attrapée par l'amour à plus de 70 ans. Macha Merrill, elle nous a immédiatement mis très à l'aise, elle nous a montré sa collection de baskets avant qu'on parte, raconté 10 anecdotes de tournage en confinement, et en même temps, il y a un côté, je sais pas comment le dire sans avoir l'air neuneux, mais un côté grande dame. Alors évidemment, le fait de savoir qu'elle est issue d'une famille aristocrate russe qui a tout perdu au début du XXe siècle me donne sûrement un biais particulier, mais je pense que vous allez voir ce que je veux dire.
On va quand même pas parler que
non,
Michel.
Moi je vous laisse, c'est comme au tango, hein, c'est vous qui tenez la danse.
Vieille branche chez moi.
Vieille branche.
Une vieille branche.
C'est vraiment bon, une vieille branche.
Dans ma tête, j'ai toujours 18 ans.
Bonjour, vous écoutez Vieille branche. Pendant une heure, je vous emmène chez un homme ou une femme dont les souvenirs racontent notre histoire.
J'ai pris une fois de la cocaïne, ça ne me fait rien.
De toute de la
je suis encore désirable.
Évidemment que c'est important.
Récolter ces paroles aujourd'hui, c'est aussi précieux qu'absolument nécessaire. Parce que depuis 4 ou 5 ans, chaque année qui passe rend cette citation d'Antoine Gramsci plus limpide, parfaitement adaptée à la drôle d'époque qu'on vit. Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Et pour les terrasser, ces monstres, ou au moins les tenir à distance, voire même les apprivoiser, écoutez les mots de nos vieilles branches, qui forment ensemble notre mémoire collective, c'est un véritable bouclier.
Ah, vieilles branches !
Nous allons discuter sans tabou, mais avec bienveillance de leur vie, de l'amour, de la mort, de ce monde qu'ils ont connu et qui n'est presque plus, de leurs souvenirs d'enfants, de leur adolescence, de leurs amis, de leur passion pour l'art, la musique, les mots, la politique, du regard qu'ils portent sur l'époque, sur les jeunes, sur les combats qui se préparent. Parce que la beauté de l'âge, c'est qu'il libère la parole, et c'est ça que vous entendez dans Vieilles Branches. Je suis Marie Misset, et aujourd'hui, je suis dans le salon de Macha Merrill. Bonjour Macha Merrill.
Bonjour.
Un immense, immense merci de nous recevoir chez vous. Je vous le dis tout net, c'est difficile de préparer une interview avec vous parce qu'on a peur de se perdre dans chacune de vos vies.
Il y a trop de trucs,
c'est
ça.
J'ai pas réussi à toutes les compter, vos vies. Alors j'aimerais évidemment vous demander ce que c'est de grandir princesse exilée, fille de russe blanc. Comment c'était l'acteur studio à New York en 1960? Comment c'était de tourner avec Godard, avec Agnès Varda, avec Blier, avec Buñuel, avec Piala? Comment est-ce que vous en êtes venue à l'écriture? Quelle nécessité vous y a poussé? Ce que vous retenez de vos années à Rome? J'ai aussi envie de vous parler de vos amours, de vos 16 à vos 80 ans passés. Et évidemment de votre grand amour qui éclipse sans doute un petit peu tous les autres, auxquels vous avez d'ailleurs sans doute du mal à donner le même nom, tant celui que vous avez vécu avec Michel Legrand semble absolu, inégalable, total. Vous vous êtes mariée avec lui à 74 ans, il en avait plus de 80, 82. Un espoir hein, pour tous ceux qui se disent comme Romain Gary qu'au-delà de cette limite, notre ticket n'est plus valable. Je cite Romain Gary parce que je crois que Michel Legrand l'aimait beaucoup, beaucoup. Cet amour, vous le vouliez immortel. Vous continuez donc de le nourrir aujourd'hui, depuis le décès de Michel il y a 2 ans. Je crois que vous avez très envie de nous parler de lui aujourd'hui, notamment de ce que vous êtes en train de créer autour de lui. Mais d'abord, j'aimerais que vous me racontiez comment est-ce que vous avez vécu cette année qui vient de se passer.
Alors, je suis un peu comme tous les privilégiés qui ont besoin de temps. Alors, j'ai beaucoup apprécié le confinement, moi. Ça m'a permis d'abord de relire les grands livres qu'on croit qu'on a lus puis qu'on n'a pas lus. L'homme sans qualité de Musil, Proust, j'ai toujours du mal à rentrer dedans, mais enfin j'ai essayé. Guerre et paix de Tolstoï que j'ai lu en intégrale. Bon, ça c'était déjà le plaisir. Et puis, les projets, c'est-à-dire les choses de longue haleine que... on n'a jamais le temps vraiment d'entreprendre parce que il nécessite justement du temps de la réflexion et du partage avec des autres personnes qui ont envie de faire ça avec nous. Alors, c'est deux grands projets hein, qu'on va sûrement aborder. C'est comment je vais faire vivre l'œuvre de Michel Legrand à l'avenir. Et puis, autre chose, c'est une espèce de bascule que j'ai vécue le jour de mes 80 ans. Tout à coup, je me suis dit, alors, combien il reste ? Maintenant, pas question de gaspiller mon temps. Le gaspiller ne veut pas dire ne pas prendre du plaisir à ne rien faire. Parce que ne rien faire, c'est très formidable, c'est très utile. On a besoin aussi de ça. On a besoin de ne pas se programmer. C'est le monde qui nous programme. Vous savez, d'ailleurs, toute la vie sociale est un peu une contrainte. Manger tous aux mêmes heures, s'arrêter de travailler à 5 heures ou à 6, prendre les autobus tous en même temps, aller en vacances le même jour tous en même temps. Tout ça est quand même une forte contrainte. Et ce confinement nous a rendu notre temps. Bon, je pense que tout le monde n'est pas dans ma situation quand même privilégiée. J'ai de jolies maisons, j'ai des jolies personnes autour de moi qui m'aident. Donc, je ne suis pas une femme qui a souffert du confinement. Par contre, je pense que ça suffit maintenant. Je crois que ça y est, on est arrivé au bout de cette jouissance. Je pense que maintenant, il faut jeter le masque, à bas les masques. Bon, alors, bon, évidemment qu'il faut écouter ce qu'on nous dit, et malheureusement, c'est pas nous qui commandons. Hein. Mais j'en ai marre, là, maintenant.
Oui, ça suffit, hein, franchement. C'est bon.
Et donc, vous je suis pas tourné. Mécontente de vous recevoir, parce que, vous voyez, jusqu'à présent, quand même, toutes ces sauteries étaient à peu près interdites. Mmh. Tandis que maintenant, je pense qu'il faut recommencer, il faut trouver d'autres façons de travailler, d'autres façons de s'exprimer. Et vous savez, vous parliez de mon pédigré, c'est mon secret de jouvence. C'est parce que j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie et que j'ai fait des choses différentes. Et que quand on me dit, oui, mais voilà, tu n'es pas vraiment une actrice, tu n'es pas vraiment un écrivain, tu n'es pas vraiment...
Qu'est-ce que tu... Qui vous dit ça ?
Tout le monde. ça, en France, si tu n'as pas une seule étiquette sur le front, hein, tu es suspect. Mais voilà, sauf que moi, je suis là. Je suis encore là et j'en connais plein qui ont démarré avec moi et qui se sont perdus dans la forêt. Tandis que cette activité multiple et cet appétit de choses différentes et de les faire à fond, c'est-à-dire de ne pas être dilettante, de faire bien chaque chose, ça, je crois que c'est ça mon secret de...
Faut être les meilleurs, vous l'avez dit. Et je crois que c'est quand même quelque chose qui vous a un petit peu guidé toute votre vie, en tout cas quand on vous lit. Être les meilleurs, je sais pas exactement ce que vous mettez derrière ça, mais c'est quelque chose qui vous guide pas mal. Quand on fait quelque chose, on le fait.
Alors ça, c'est mon côté aristo. Ouais. Comprenez? C'est-à-dire que je ne peux pas me permettre de faire mal. Et puis, c'est pas une question de compétition. Vous voyez, je ne suis pas du tout compétitive. Je me réjouis quand d'autres personnes réussissent et font des choses bien et mieux que moi. Je sais qu'il y a des choses que je sais pas faire. Alors, malheureusement, le piano, je me suis arrêtée assez vite parce que moi, je l'aimais, mais lui, il m'aimait pas. La chanson, j'ai une jolie voix, je chante juste, mais je ne chanterai jamais comme Nathalie Dessay. Donc, il y a des choses, il faut se connaître, il faut savoir là où, c'est pas la peine de s'aventurer. Mais, quand on se lance dans quelque chose, alors là, il faut faire ça avec sérieux et avec humilité. Je veux être la meilleure, oui, mais pas au sens de...
Meilleur que tout le monde.
C'est pas sportif, hein, c'est pas avoir la timbale, c'est faire bien.
Et vous l'avez dit, vous êtes aristocrate, on en a parlé très rapidement au tout début. Vous êtes donc née sur la Côte d'Azur, vos parents sont des Russes blancs. Qu'est-ce que ça a laissé comme empreinte, vous le dites, il y a ce désir de faire bien, de devoir quelque part peut-être représenter quelque chose. Mais au-delà de ça, vous qui êtes naturalisée française, qu'est-ce qui vous reste de russe ? Qu'est-ce que vous sentez de russe ?
Alors, vous savez, d'abord, quand on a un passé comme le mien, c'est-à-dire mes parents qui ont dû fuir la Russie après la révolution d'octobre et qui sont venus en France parce qu'ils parlaient le français, comme tous les Russes de la bonne société, ils parlaient 8 langues. Ma mère parlait l'anglais, l'allemand, etc. Quand elle a été invitée chez Pivot, elle avait écrit un livre qui s'appelait « Blond était les blés d'Ukraine ».
Pivot, à plus de 80 ans, 85
oui,
ans, elle l'a.
Alors, Pivot l'a interrogée, elle dit « Vous savez, j'aurais pu écrire ce livre en allemand ou en anglais ». Alors, elle nous a récité un poème de Byron dans un anglais parfait, un poème de Schiller aussi parfait en allemand. Donc, c'est de là d'où je viens. Mais ce sont des gens qui ont tout perdu. Ça veut dire que c'est possible de tout perdre. Il faut savoir ça. Ceux qui ne sont pas immigrés, ceux qui n'ont pas un passé comme ça, ne peuvent pas le comprendre. C'est-à-dire que moi, j'ai un sens de la précarité. Je sais que chaque chose qui m'arrive est une chance énorme. Et que je remercie le bon Dieu, je remercie la France, je remercie mes parents. Je suis tout le temps dans une situation de reconnaissance. Ça, c'est le syndrome de l'émigré. Je suis née au Maroc parce que mon père, qui était ingénieur agronome, avait reçu un job, fort heureusement, après, et donc il a gagné ce concours. Il était très heureux au Maroc parce qu'ils ont retrouvé les espaces de la Russie. Mes parents ont été très heureux là. Alors, j'ai deux sœurs qui sont nées, elles, sur la Côte d'Azur, et il fallait un petit garçon. Moi. Alors, ma mère était très déçue. Elle voulait absolument un garçon, et donc, c'était vraiment une déception. Ça aussi, ça a probablement joué un rôle, c'est-à-dire que je dois faire le garçon de la famille qui réussit, qui aide les autres, qui gouverne un peu. Donc
c'est quelque chose qu'on vous disait quand vous étiez toute petite ?
Non, après non, ça a cessé.
Ça se sait.
Ça a cessé, ouais. Mais enfin quand même, c'est, je sais, je suis née avec ce syndrome de d'être aussi valable qu'un garçon. Je pense que beaucoup de femmes ont ce sort-là. C'est-à-dire, il y a eu une époque où c'était une vraie déception de mettre au monde une fille. Hein. C'était comme un ratage. Hein. Donc, bon.
Surtout quand c'était la troisième.
En plus, la troisième. Alors, franchement, là, c'était trois ratages. Ça... Maintenant, c'est très curieux parce que ça s'est vraiment inversé. Je pense que, comme l'avenir sera féminin et féminin, je pense que maintenant, ça s'est complètement renversé. On est inquiet de mettre au monde des garçons parce qu'on ne sait pas comment on va les élever. Tandis que les filles, le chemin est plus tracé.
Et vous avez aussi deux choses dans cette enfance qui sont peut-être à relier à votre amour avec Michel Legrand, qui reste peut-être le thème de cette émission. C'est d'abord l'amour de vos parents, l'un pour l'autre. Je crois que c'était un couple assez emblématique, qui faisait un peu rêver autour d'eux. Et puis, il y a les deux sœurs de votre mère qui sont
Oh, dites donc, vous avez bien étudié ma situation. Je vois, vous avez vos fiches. Oui,
les deux
en
sœurs
effet.
De votre mère qui, elles, sont restées. Quand votre mère a fui toute seule, c'est quand même à 17 ans, ce qui est quand même assez incroyable, elles sont restées en Ukraine.
Ce qui les a sauvées, c'est ça. C'était l'amour. Elles étaient deux sœurs jumelles et une troisième. Et les trois sœurs ont été déportées en Sibérie par Staline. C'était, vous savez, des relégations, déplacements de population. Enfin, c'était pareil, elles étaient dans des baraquements par moins 30, enfin bref, des destins atroces. Mais ce qui les a sauvées, c'est trois choses. L'amour, l'humour, pour elles, tout était sujet de rigolade, parce que c'était telle situation absurde. Et la troisième chose, c'est la foi. Alors la foi, ça c'est très russe. Je pense que dans des circonstances aussi difficiles que ce qu'ont vécu les Russes, toujours, mais alors encore plus sous Staline, ça les a beaucoup soutenus. Et donc, et je me rappelle quand elle finalement on a réussi à la faire venir en France après beaucoup d'années, c'est une longue histoire. Elle voyait mes deux sœurs et moi, on avait chacune son appartement. Elle disait mais comment, vous êtes trois sœurs et vous ne vivez pas ensemble. C'était pour elle impensable. Je pense que d'avoir un exemple de l'amour dans la famille, dans les proches, ça modifie tout après par la suite. C'est vrai que c'est comme d'avoir des parents qui fument, vous fumez. Quand vous avez des parents malhonnêtes, c'est plus difficile d'être honnête. Donc c'est très fort cette histoire-là, cette histoire de l'exemple et du modèle. Parce que inévitablement, les enfants veulent mériter leurs parents. On veut être aussi bien qu'eux, et même mieux si possible. Donc quand la barre est très haute, c'était mon cas, je rame, hein. Il faut pas que je défaille. Et ça, c'est, alors, est-ce que c'est culturel ou est-ce que ce sont des natures? Je ne sais pas. Moi, j'ai toute ma vie entendu parler de ce grand amour de mon père pour ma mère et vice versa. Et donc, au fond, j'attendais ça. Quand j'ai rencontré Michel Legrand, il y a 50 ans, plus maintenant, il y a 55 ans, c'était au Brésil pendant un festival, j'ai compris qu'il pouvait être cet homme-là parce que lui aussi, il cherchait ça. Michel Legrand, c'est dans sa musique, est un amoureux de l'amour. C'est-à-dire, on sent qu'il met cette valeur-là très haut, que c'est pour lui très très important. Alors, on dit les hommes qui aiment les femmes, la féminité. Non, c'est pas ça. C'est aimer l'amour, c'est pas la même chose. Et malheureusement, c'était pas possible. Il était marié, il avait deux enfants en bas âge. Moi, d'ailleurs, j'étais aussi en train de sur un autre chemin. Et
vous alliez vous marier, ce qui
j'allais me marier, et heureusement que j'ai pas épousé celui-là, alors parce que ça, c'était la gaffe. Hein. Mais voyez, nous avions tout de suite la conviction qu'au fond, nous poursuivions le même objectif, le même désir.
Et alors, avant d'en venir à Michel Legrand, donc vous grandissez en partie sur la Côte d'Azur, et puis quand votre père meurt, vous vous installez à Paris. Vous avez le souvenir de cette arrivée à Paris, de ce que ça...
Absolument. Alors ça, c'est un coup de panache de ma mère. Il faut vraiment être une femme russe pour faire un truc pareil. On était au Maroc, très confortable quand même, avec une belle situation, une femme de ménage, une Fatma, ça s'appelait à l'époque. Maintenant, on peut plus dire ça, mais c'était une femme qui nous servait. Et puis tout d'un coup, elle a tout vendu et elle a dit « Paris ». Et je la bénis jusqu'à ce jour, parce que c'est grâce à elle que je suis ce que je suis aujourd'hui. Donc vous savez, la vie est une série de coups de bol qu'il faut reconnaître. Il faut saluer ces coups de bol. Et mon premier coup de bol, c'était ça. Alors j'étais petite, j'avais 8 ans, 9 ans. Alors lycée, école, commune, et puis très vite Saint-Germain-des-Prés. Alors moi, j'ai très vite compris qu'il fallait que je me débrouille toute seule, que c'était pas dans le sein familial que j'allais trouver ma position future, ni rien. Et comme j'étais quand même pas stupide, je crois, j'ai tout de suite compris qu'il fallait que je m'intéresse à l'actualité. C'est pour ça que quand on me dit « j'aime la politique à cause de ça », parce que j'aime ce qui se passe. Alors c'était tout de suite Saint-Germain-des-Prés. Ça existait encore. J'étais championne de bebop, ma chère. Donc le jazz était déjà dans mes oreilles.
Meryl, votre
choix. J'ai changé. Non, attendez, c'est pas tout de suite. Alors là-dessus, premier film, c'était un film d'Éric Rohmer qui s'appelait Le signe du lion. Ben, c'était à l'époque, il n'y avait pas d'agent, etc. Il m'avait choisi dans la rue, la rue Saint-Benoît, parce qu'il voyait les jeunes filles qui dansaient avec... Alors mes partenaires, c'était Cassel, c'était Belmondo, Guy Bedos. On était tous là ensemble, une bande de
danseur de bebop.
Qu'est-ce qu'on était beau, alors on était mignons. Et d'ailleurs, je me rappelle de cette époque avec émotion. On allait tous dîner tous les soirs, en bande. Il y avait toujours quelqu'un qui payait. Je ne me souviens pas d'avoir payé un dîner. Alors on allait à la Coupole ou on allait chez Lip. Et il y avait toujours un type riche qui nous invitait, qui était content d'avoir toutes. C'est fini ça. Ça, c'est la belle jeunesse quand même. Et puis, très vite, le cinéma. Alors, je voulais quand même faire une licence de lettres. J'avais envie d'être à la Sorbonne, mais le cinéma m'a attrapée très vite. Et quand j'ai fait mon premier film, disons, grand film, qui était La Main Chaude, avec Gérard Oury, dont c'était le premier film, il fallait trouver un nom. Et alors, j'ai choisi ce nom de Meryl à cause d'une chanteuse de jazz, qui est Helen Meryl, dont je connais tout le répertoire. Et c'est drôle, parce qu'avec Michel, on avait ce projet. Il voulait me faire rechanter les chansons d'Hélène Meryl, il voulait les orchestrer lui-même. Enfin bref, vous voyez, c'est des petits rêves, mais je le ferai peut-être, on va voir, je le ferai pour lui.
On l'a pas dit parce que moi ça me semble évident, mais Michel Legrand c'est un grand justement du jazz, donc j'imagine que quand même quand vous le rencontrez à 24 ans et que vous dites tu m'appelles Macha Meryl,
ça a été ça, parce que de trouver une fille de mon âge qui soit aussi fan de jazz, et je connaissais tout le monde, je connaissais Jerry Mulligan, je connaissais enfin Miles Davis, je les connaissais tous, je les avais même rencontrés parce que j'avais été aux États-Unis pendant 2 ans, donc il était tout à fait bluffé, il en revenait pas.
J'imagine que ça a compté, ça a joué.
Mais c'était pas ça. C'est que vous savez, ces choses-là, on n'a même pas besoin de se parler, de faire, comment dire, de se présenter. C'est pour ça que je déteste les sites de rencontres, parce qu'on donne des éléments de sa biographie, de ce qu'on est, de ce qu'on aime. C'est pas comme ça. Ça se passe dans un regard. Ça se passe je me rappelle, j'avais mis ma main comme ça. Il a mis sa main sur la mienne. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc?
Qu'est-ce que c'est que cette déflagration?
Et ça, ça existe, c'est une réalité. 50 ans plus tard, j'ai fait la même chose, il m'a mis la main sur la mienne et j'ai senti la même chose. Alors, donc, cette chose-là, bon, ça ne pouvait pas se réaliser, mais je savais que ça existait. Et alors, c'est terrible pour tous les autres compagnons que j'ai eus, j'en ai eu quelques-uns, c'est que je savais que c'était pas ça. J'ai vécu des choses formidables avec des gens merveilleux et que, vraiment qui m'ont construite aussi, qui m'ont constituée. Mais le grand amour, c'était Michel. Parce que là, c'était quelque chose qui était inexplicable, que je ne pouvais pas même définir. Et puis quand nous nous sommes retrouvés 50 ans plus tard, ça, c'était vraiment le gag. On a été comme ça, et ça nous a fait rire tous les deux. On s'est dit, bon ben voilà, le destin est plus fort que nous, il faut lui obéir.
Alors Macha Meryl, elle a eu d'autres vies amoureuses avant de connaître Michel Legrand, notamment celle qu'elle va nous raconter en pointillé maintenant, et vous allez le comprendre à demi-mot, ou pas d'ailleurs, du coup je vous le dis, elle a subi à ce moment-là un avortement clandestin, c'était avant que ce soit légal, et si je me sens assez à l'aise pour vous le dire alors qu'elle ne me le dit pas, c'est qu'elle en a parlé plusieurs fois lors d'interviews. Je pense que sa manière ici de botter en touche révèle par ailleurs un aspect sur lequel elle insiste. Elle ne veut pas être considérée comme une victime. Elle estime qu'elle est à l'origine et partie prenante et consciente des histoires qu'elle a vécues. Il me semble que aussi problématique qu'aient pu être par exemple les propos d'une Maïwenn, c'est aussi ce qu'elle veut dire, qu'elle ne veut pas qu'on écrive son histoire à sa place, quitte à tomber soi-même dans le piège et à le faire un petit peu pour les autres. Avant ça, il y a une histoire qui sans doute a été fondatrice pour vous. Vous aviez 16 ans, vous avez eu une aventure avec un homme à l'époque d'une quarantaine d'années, je crois.
Oh, dis-donc, et... c'est tout, c'est terrible.
Mais alors je me dis, scalée, vous aviez quand même une enfance très, oui. Une adolescence très libre. Enfin, vous vous dites un petit peu comme...
Alors, ça aussi, fille d'émigrée, il fallait que je me démerde, il fallait que je me débrouille toute seule. Et ma mère a eu cette grande intelligence de se dire, je peux pas plus pour elle que de lui donner la liberté d'agir. Elle se cassera le nez, mais de toute façon... Et alors, cette confiance qu'elle me faisait, c'était pas une confiance dans le sens qu'elle était sûre que j'y arriverais. C'était...
Il n'y a pas d'autre alternative.
Il n'y a pas le choix, voilà. Ça, vous voyez, c'est aussi du bol. C'est-à-dire que je pense que les familles, par exemple, très protectrices, c'est aussi un carcan, c'est aussi une prison. Donc moi, le fait que nous étions comme ça, à chacune se débrouiller, mes sœurs de leur façon, moi de ma manière. Alors mes sœurs, elles me jugeaient parce qu'elles trouvaient que j'étais quand même trop délurée et que ce bebop et Saint-Germain-des-Prés. Alors un jour, ma mère a voulu aller voir où est-ce qu'on dansait. C'était au club du Vieux Colombier. Le Vieux Colombier, c'est là où il y a le théâtre maintenant. C'était l'après-midi. On transpirait, il n'y avait pas une goutte d'alcool, c'était vraiment pour danser.
C'est et bon
pour
enfant. Se...
Alors, évidemment, quand même, les garçons qui allaient là, c'était souvent des garçons qui voulaient faire du cinéma, ils étaient des futurs qui étaient à l'IDEC, ça s'appelait à l'époque, l'école de cinéma. Donc, il y a quand même des petits réseaux qui se créent. Mais c'était des réseaux privés, des réseaux qu'on allait se chercher. C'était pas des réseaux que t'indiques...
Time out.
Voilà, je vois maintenant comment on pense à la place des jeunes. Comment est-ce qu'on leur propose des pistes? Ça m'aurait beaucoup agacé, ça, moi, vous voyez.
Qu'on vous dise où aller.
Je suis allée chercher faire. Moi-même, oui.
Et quand vous dites que vous êtes allée chercher vous-même le jeu d'actrice, enfin, en tout cas, l'idée d'être comédienne ou le théâtre, c'est aussi parce qu'il fallait se débrouiller ou c'est une passion?
Alors, je sentais que c'était un chemin plus facile que d'autres, c'est-à-dire il n'y avait pas besoin de grands diplômes, il n'y avait pas besoin... Donc ça commence tout, vous savez, la carrière d'une actrice. J'avais 16 ans, hein. Et donc j'allais au cours du lin, je me suis vite inscrite au cours du lin, mais c'était le début de la nouvelle vague, enfin ça commençait, ça frémissait, il fallait surtout pas dire qu'on allait dans une école. Donc tous les acteurs qui étaient au conservatoire étaient un peu défavorisés par rapport à nous qui étions comme ça des électrons libres, des pousses sauvages. Et... j'ai compris que ça pouvait aller très vite. Il y avait aussi la question de l'argent. On vivait dans une misère, une pauvreté. Ma pauvre mère, elle essayait de son mieux, de faire toutes sortes de petits métiers. Elle n'avait aucune compétence. Donc, c'était très dur, très, très dur. Et très vite, moi, premier film, le premier frigo que nous avons acheté dans ma famille, c'est moi qui l'ai acheté avec mon premier cachet. Je pense que ça joue un rôle important, ça. C'est-à-dire que je crois que l'indépendance, qu'on appelle l'indépendance des femmes, c'est le bulletin de salaire. Il n'y a pas 36 trucs. C'est gagner sa vie. À partir du moment où tu gagnes ta vie, tu peux prétendre à une indépendance et dire que tu mènes ta vie. Donc ça, je l'ai vite compris. Mais pourquoi? Parce que dans tous ces gamins avec qui je dansais, il y avait des garçons très très brillants et qui m'ont fait lire Le Capital de Marx et d'autres. C'est-à-dire que je suis très vite devenue une militante. Alors j'étais à ma manière quand même. C'est-à-dire que je faisais la somme entre la littérature et la politique. Et je préférais quand même les auteurs qui écrivaient mieux que d'autres. Mais tout de suite, ça m'a donné une conscience. Et cette conscience politique, je crois que ça, c'est comme une loupe. Ça vous fait voir le réel d'une façon différente. C'est-à-dire que j'ai très vite compris qu'il fallait gagner sa vie, très vite compris qu'il fallait avoir une identité sociale et que c'était ça la vraie liberté. La deuxième, ça a été la pilule. Parce que qu'on dise ce qu'on veut, 68, c'est un mouvement féminin et qui est né en 66 avec la pilule. Il n'y aurait pas eu 68 s'il n'y avait pas eu la pilule.
Vous savez que c'est en interviewant des femmes de votre âge et un peu plus jeunes que j'ai compris cette histoire de la pilule. Je n'avais jamais saisi avant à quel point c'était...
Ben oui, vous ne pouvez pas, votre génération, vous êtes née avec, vous connaissez...
Un basculement. Et bon, si on revient très vite sur cette histoire avec cet homme de 40 ans, si vous aviez eu la pilule à l'époque, votre vie aurait été différente. Enfin, c'était,
Exactement, mais bien sûr.
Vous avez raconté...
Alors, quand même, j'ai pris le risque, hein, parce que j'étais jolie comme un cœur, et puis comme il m'emmenait avec son Aston Martin manger des petites fritures sur la Loire, je trouvais ça pas mal quand même. J'ai bien aimé tout de suite... Oui, vous savez, le manque d'argent fait qu'on mythifie un peu l'argent, le luxe. Il fallait que je guérisse de ce truc-là. Il fallait qu'une fois pour toutes, j'ai vu des beaux hôtels, des belles robes, etc., que j'en ai. Et que... Après ça, ça n'a pas mis longtemps. Hein. Et j'ai viré ma cutie assez rapidement avec l'engagement politique et avec la guerre d'Algérie, vous savez... Tous nos camarades, n'oubliez pas qu'il y avait ça en même temps. Tous nos camarades, où ils partaient, où ils revenaient, où ils étaient mobilisés, et ils avaient vu des choses horribles. Donc, nous étions assez sérieux. Hein. Moi, j'ai raconté à Ruquier que quand j'ai rencontré Michel, on n'a pas fait l'amour. Elle me dit, oh, c'est pas vrai, c'est pas possible, allez, vous étiez une fille de 68. Eh ben non, vous voyez, parce que nous
étions... Déjà, c'était en 64.
64, c'était bien avant. On plaisantait pas, on n'était pas des petits sauteurs comme ça, au contraire.
Des petits sauteurs.
C'est pas un terme d'aujourd'hui, ça. Hein.
C'est des petits sauteurs, j'aime bien.
Sauteuses. Et je crois que, voilà, il faut aussi se rendre compte qu'on ne grandit qu'à un moment précis de la vie. Après, c'est de la gestion de ce qu'on a acquis. Hein. Il faut bien se rendre compte de ça. Et c'est de 13 à 23 ans.
Et racontez-moi New York en 1960, à quoi ça ressemblait.
Alors aussi, coup de bol incroyable. Alors, je fais des photos, je venais de faire ce premier film, je fais des photos avec Richard Avedon. Richard Avedon qui s'est fait des photos de beauté, de chapeau, je ne sais pas quoi, c'était de la mode, à Paris, pendant les collections. Et pendant le truc, il me dit, parce qu'il voit que je parle les langues, je suis marrante, il me dit, est-ce que vous viendriez travailler avec moi à New York sur un livre qui s'appelle Observations, qui est un livre de portraits où je vais recevoir des gens du monde entier, il faut que... J'ai dit oui immédiatement. À l'époque, j'étais pas majeure, parce qu'il fallait, c'était 21 ans, hein, et il fallait l'autorisation de ma mère. J'ai pensé tout de suite qu'elle ne me la donnerait pas, donc j'ai fait un faux, j'ai fait l'attestation de ma mère, et j'ai pris l'avion, je suis partie à New York, avec une lettre de Jean Villard, qui était donc mon prof, et qui était assez déçu que je quitte le TNP. Enfin, j'étais dans l'école, j'étais parmi les jeunes futurs étudiants qui allaient faire des petits rôles à Avignon, etc. Donc, il m'a fait une lettre pour Lee Strasberg, pour l'Actor Studio, et je suis partie, bille en tête. Vous comprenez ? Alors, vous me disiez les mille facettes, les mille visages. C'est pas ça, c'est un seul visage. Pas peur.
Je pense que
quand la vie vous fait un petit clin d'œil, il faut y aller. Et je vois quand même que ce qui caractérise beaucoup de jeunes, c'est la peur. Je pense que c'est la première chose dont il faut se débarrasser. C'est-à-dire prendre des risques, évidemment, parce qu'on ne sait jamais comment ça va tourner, qu'est-ce qui va se passer. Et en plus, les choses ne se passent jamais comme on les prévoit, comme on les imagine. Et surtout à un certain âge, surtout justement avant 25 ans, on a plein d'idées fausses dans le crâne et il faut aller les vérifier. Et quelquefois, justement, alors ça peut être douloureux, ça peut être, on peut se planter. Hein. Moi, je me suis plantée, hein. Ne croyez pas que tout a été magnifique, mais j'y étais. Et quand je suis arrivée à New York, alors il y avait aussi une petite histoire, pas si petite que ça, mais enfin avec le directeur artistique de Harper's Bazaar qui s'appelait Henry Wolff, qui est un type génial et qui était très épris et qui m'a donc hébergé et tout ça. J'ai traité ma vie de femme comme un tremplin, comme un moyen d'arriver quelque part.
Et donc vous rentrez de New York en 1962, il me semble. Hein. C'est 2 ans plus tard que vous êtes donc au Brésil avec Michel Legrand pour cette semaine qui restera ancrée. C'est quelque chose auquel vous repensiez souvent les années passant, années après.
Vous savez, c'est curieux. Je pense que les femmes sont assez pragmatiques. C'est-à-dire que quand j'ai compris que c'était pas possible, bien sûr, ça a été un chagrin, mais j'ai mis une croix. Je le rencontrais, c'est parce qu'il était quand même souvent en France. Après, il est parti pour les États-Unis. En plus, il a même fait la musique du film de Godard que j'ai fait après. Donc, on avait des possibilités de... Mais moi, je voulais pas être comme ça, une amante, une maîtresse, une backstreet. Et lui non plus. Je pense que c'était un homme comme ça, c'est-à-dire une femme à la fois. Bon, on en change, il a changé, moi aussi. Mais un à la fois. La chose la plus mystérieuse pour moi, c'est l'adultère. Je peux pas comprendre qu'on vive avec un homme et qu'on ait un autre à côté. Pour moi, c'est impensable.
Peut-être parce que vous êtes éprise de beauté. Enfin, j'ai l'impression que c'est un truc qui guide votre vie. Ça, c'est quelque chose que vous trouvez profondément pas très joli.
C'est mes parents, c'est la Russie.
Vous croyez ?
C'est
la Russie ?
Oui, la Russie. Et oui, les Russes, c'est ça. Si vous lisez la littérature russe, Anna Karenine, on se déchire, on se massacre, mais on ne vit pas une vie lamentable entre deux personnes. Non, c'est pas possible. On se quitte. On se tue. Voilà. Alors, je pense que Michel était comme ça aussi. Ce qui fait que on se croisait de temps en temps et il me disait, il avait très la trouille que la moindre étincelle puisse refaire partir l'incendie. Et puis, moi, j'ai eu ma vie. Je suis partie en Italie. J'ai fait beaucoup d'autres choses. Lui est parti pour les États-Unis. Et je pense qu'il ne pensait plus à moi. Sauf que, il m'a raconté, je crois que c'est vrai, qu'il parlait toujours de moi à toutes ses compagnes, ce qui est sympathique quand même. Hein. Et il disait, voilà, il y a une femme idéale.
C'est ma chérie.
C'est elle fait tout bien, elle est formidable.
Elle est engagée,
Ah, les hommes sont terribles. Bon, mais quand nous nous sommes retrouvés, c'est un accident. C'est un accident. Donc, on ne peut pas dire qu'il a poursuivi cette idée au moment où il était... Parce que les hommes ont horreur du vide. Alors, c'était quand il quittait une femme qu'il cherchait une autre. Mais là, écoutez, on a eu cette chance de vivre sept années ensemble. J'aurais voulu que ce soit plus long. J'aurais voulu qu'il assiste à tout ce que je fais maintenant, mais il est là. Vous savez, c'est très curieux, parce que c'est pas une question d'âge, c'est vraiment à cause de la nature de cette relation que j'ai avec lui. Elle dure, elle est là.
Vous le disiez dans un livre...
Je vis avec lui, il doit y être là quelque part, je vous assure qu'il nous écoute là et qu'il se marre.
Vous le disiez, Michel et moi, le livre que vous lui avez consacré, de son vivant d'ailleurs, qu'il a pu lire, que votre
amour était immortel. Il m'a fait rire quand je l'ai écrit, il m'a dit oui, c'est bien parce qu'il était très pudique. Oui, alors tu vas le publier après ta mort. Hein, tu vois.
Après ma mort, après ta mort.
Pas la sienne, après la mienne. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas, il était très pudique.
Bon, vous parlez quand même de vos premiers ébats sexuels avec lui. C'est vrai que pour un homme pudique, ça ne doit pas être évident de...
Oui, mais enfin bon, comme c'était plutôt ça romantique, il n'a pas... Mais ça le gênait quand même un peu. Et ça l'a beaucoup gêné, par exemple, que je participe aux Grosses Têtes et qu'il y avait dans mon passé, comme ça, où des incursions que j'ai faites dans des mondes qui ne sont pas tout à fait le mien, il y avait des traces, parce qu'à chaque interview, on me ressortait toutes les cochonneries que j'ai dites aux Grosses Têtes. Et alors ça l'embête.
Ça le chiffonnait. Et j'étais étonnée qu'on ne trouve pas plus sur vous votre rôle de productrice, parce que vous avez quand même produit, je crois, ou alors arrêtez-moi, un film de Pasolini,
oui,
par exemple.
Alors j'ai coproduit, hein, c'était pas moi. J'ai fait le film de Bresson de cette manière-là.
J'ai
fait surtout les films de Guy Gilles.
Voilà.
Alors je vais vous dire, j'ai été dégoûtée de la production. Au bout de quelques temps, j'ai compris que c'était un métier à part entière et que ça excluait les autres, et que parce que quand au moment de la Nouvelle Vague, il y a eu une espèce de mouvement où tous les gens qui faisaient du cinéma, dont moi, on participait. C'était ça la grande différence avec le cinéma d'avant. C'est-à-dire que moi, je m'occupais plus de porter des bobines à la cinémathèque que de me maquiller ou de me coiffer. Et ça, c'est un état d'esprit, si vous voulez, mais qui a cessé. La Nouvelle Vague, ça a duré 10 ans, c'est pas beaucoup. Et après, il fallait vraiment aimer ça. C'est-à-dire aimer, un, trouver l'argent, deux, le dépenser, et trois, en gagner. Moi, je ne sais pas faire ça. Ça ne m'intéresse pas. Et avec Bresson, c'est lui qui a été le coup de grâce. J'ai compris que j'étais entre le marteau et l'enclume. C'est-à-dire qu'on déplaisait à tout le monde. Je déplaisais au distributeur parce qu'on ne faisait pas le film qu'il voulait. Je déplaisais à Bresson parce que Bresson trouvait que j'étais pas assez puissante et que j'avais pas le bras long. Donc finalement, c'était une douleur. Et puis alors, j'ai fait un examen. Je me suis dit, donc, qu'est-ce que je veux dans la vie? Je veux être comédienne et je veux surtout écrire. C'est à ce moment-là que, tout d'un coup, il y a des réflexions qu'on fait au cours de la vie comme ça, qui font qu'on change de, on change de cap. Il faut changer de cap. Donc, il faut réfléchir. Voilà.
Et quand elle a réfléchi, Masha Meril a décidé qu'il lui fallait quitter l'Italie. Certes, le pays la fascinait, elle s'y sentait chez elle, mais elle était malheureuse. Elle est rentrée en France vers ses 40 ans et comme elle l'explique, pour une actrice de 40 ans, alors le travail, c'était pas évident. Elle a donc décidé, en forme de revoir à l'Italie, d'écrire des livres de recettes inspirés par ce qu'elle avait touché de la gastronomie italienne et ça a été un énorme carton. Et puis finalement, elle a retrouvé le chemin des planches et des plateaux de cinéma, mais elle ne se considère pas vraiment comme une actrice. Je reprends ses mots en disant qu'elle se prête aux réalisateurs et actrices qu'elle a côtoyés.
Alors, je suis très obéissante avec les talentueux, avec les génies. Avec Agnès Varda, elle a fait de moi ce qu'elle voulait. Fassbinder, pareil. Claude Miller aussi. Tout ça.
J'ai hâte que vous me disiez, par contre, avec les pas génies, je suis pas très obéissante et que vous me fassiez la liste des pas génies.
Ah, c'est là que je deviens dangereuse. C'est-à-dire que c'est vous qui êtes dangereuse, vous m'entraînez sur des chemins. Alors, je ne les citerai pas, ouais. Mais avec les autres, effectivement, je suis un peu directive. Oh, c'est terrible, vous savez. J'ai beaucoup aimé le caractère de Michel Legrand pour ça, parce que tout le monde disait qu'il était colérique, insupportable, caractère difficile. C'est vrai, parce qu'il supportait pas la médiocrité. Il supportait pas qu'autour de lui les gens ne soient pas au même niveau que lui. Alors c'était difficile parce qu'il était pianiste sensationnel, grand talent musical. Il lisait la partition comme. Un jour, il m'a fait rire pendant qu'on se mariait à l'église orthodoxe. Il y avait le chœur qui chantait, et chez nous c'est Moussorski, Stravinsky, c'est pas n'importe quoi, hein, les chants liturgiques russes. Et alors il y avait, et je vois qu'il regarde le ciel, je dis qu'est-ce que tu regardes
pendant le mariage,
pendant le mariage, parce que c'est nous, les gens sont autour de nous et il y a beaucoup de temps creux, hein, il y a beaucoup de temps mort, donc pendant ça je dis qu'est-ce que tu où tu il me dit tu sais, je vois la partition s'afficher, c'est-à-dire il écoutait la musique et il voyait les notes s'afficher. Bon, donc, génie, hein. Bon, génie. Il n'aimait pas qu'on dise ce mot parce que ça le gênait, mais c'était vraiment génie. Mais cette histoire, cette intolérance pour les gens autour de vous quand ils ne sont pas capables, je la comprends très bien. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je fais, moi, à la place des autres, quand je vois qu'ils ne sont pas capables, je prends la main. Alors, c'est pas toujours
bien vu.
C'est pas bien vu, oui.
Mais vous dites aussi que, voilà, c'est aussi ce qu'on vous a appris en tant que femme versus ce que lui, il a appris en tant qu'homme dans la société dans laquelle vous avez grandi tous les deux, c'est qu'il avait le droit de faire exploser ses colères et quelque part, pas vous. Par contre, vous prenez en main, du coup.
Alors, il y a encore une différence quand même entre les hommes et les femmes. Et puis, il y a surtout des différences entre les individus. Moi, je veux dire...
Oui.
J'étais au service de son immense talent hein, et j'ai accepté des choses. Accepter, c'est même pas le mot, je les ai fait volontiers. C'est-à-dire, je faisais tout. J'étais sa secrétaire, son manager, son infirmière, sa cuisinière, son amante, j'étais tout. Et c'était lourd, hein. Pas facile. Hein. J'ai pas rigolé tous les jours. Mais ça valait la peine, parce que je savais que ça valait la peine. Et je pense que ça, c'est autorisé. Qu'une femme se mette au service d'un homme exceptionnel, moi, je trouve que c'est la moindre des choses.
Si vous en avez envie, vous en avez envie.
Voilà. Mais c'est pas l'envie. C'est le reconnaître que là, il faut protéger quelqu'un qui a un talent comme Michel Legrand. Vous comprenez? Il faut l'aider à vivre. Il faut l'aider à grandir. Il faut faire des barrières autour de lui et tout ça. Et lui, il se défendait tout seul avant moi, mais
c'est ce qu'à ses 82 ans, oui, il a bien dû se défendre.
Alors, avec le mauvais caractère, vous voyez, en gueulant, et quelquefois, pas d'une façon gracieuse, hein. Je dois dire, il a été quelquefois assez abrupt dans ses façons de... Alors, surtout avec les musiciens, parce qu'il pouvait pas supporter qu'on fasse une fausse note ou qu'on soit pas aussi rapide que lui. Enfin, bref, ça, ce sont des considérations. Heureusement que le monde est varié, que les individus sont différents les uns des autres. Il faut pas faire des règles trop strictes, vous savez. Il y a quand même beaucoup d'adaptations dans tout ça.
Et vous avez revu donc Michel quand vous aviez, je sais pas, du coup 72 ans, 73 ans. Vous vous mariez à 74 ans maintenant.
Absolument, vous avez raison.
Il vient vous voir au théâtre.
On se mariait très vite. Alors, le premier soir, il me dit, bon, alors ce coup-ci, je t'épouse.
Ah,
je dis,
attends, le premier soir. Je l'ai vu, le coup-ci, je t'épouse, mais je pensais pas que c'était...
Quasiment, enfin, c'était si, parce qu'il est venu me voir au théâtre. Là, il y avait du monde avec nous au théâtre. Là, c'est là que j'ai mis ma main, il a mis sa main.
Et c'est pareil, c'est reparti.
Incroyable. incroyable, incroyable. C'est inexplicable.
La midinette en moi.
Ben oui, il y a de quoi, parce que c'est moi-même, je comprends pas. Alors bon, et puis le lendemain, il est revenu au théâtre me voir. Je jouais une pièce de Didier Van Cauwelaert, et il est revenu me voir. Et ce soir-là, on a dîné tous les deux. Et il m'a dit, ce coup-ci, je t'épouse. Je dis, attends. D'abord, on essaye. Hein. Alors, on a passé une semaine ensemble, et là, dans son château où je vis là maintenant. Et bon, c'était une blague parce qu'on savait que c'était très bien, même si. Évidemment, à nos âges, c'est pas tout à fait la même chose. Alors là aussi, on va faire un petit chapitre sur la sexualité. Je sens que ça vous
intéresse. Oui, j'en avais envie, évidemment. On ne va pas vous mentir.
La sexualité n'est pas la même au cours de la vie. Elle est complètement différente quand on est ado ou quand on a déjà une première expérience ou quand on a plus de 40 ans pour une femme. Et après, quand toutes sortes d'éléments ne sont plus les mêmes, aussi bien pour les femmes que pour les hommes. La sexualité, elle est dans tout. Elle est dans les échanges, les paroles, dans l'humour, elle est dans le toucher, elle est dans les choses qu'on mange ensemble, dans le plaisir d'un coucher de soleil. Il y a beaucoup de sensualité là-dedans. Et puis, il y a l'acte sexuel qui est finalement faible par rapport à tout le reste. Parce que finalement, écoutez, hein, franchement...
Oui, je vous savais, j'ai noté des descriptions qui m'ont fait rire.
C'est un peu simpliste, hein, le l'ictus, c'est pas grand-chose. Hein, c'est par rapport à tout ce qui peut transporter de la sexualité, l'acte sexuel est petit.
Se déshabiller, s'allonger, se montrer dans des positions inesthétiques et inconfortables, se concentrer, oublier la lumière et les bruits avoisinants, lancer des opérations et ne pas laisser retomber la pression. C'est vrai que dit comme ça, c'est une sacrée...
Surtout... Non, il y a les fois où c'est comme un embrasement, on n'y pense même pas, on ne sait pas où on est, on sait... Bon, mais ça arrive une fois ou deux, hein, c'est pas tellement tout le temps. Mais c'est pas la vie avec l'amour. La vie avec l'amour, c'est autre chose. C'est de chaque instant.
Et le corps, alors,
être
quand même.
Être beau l'un pour l'autre. Ça veut pas dire être beau. Ça veut dire être tout le temps dans le respect de l'amour. C'est cultiver l'amour.
Vous dites quand même aussi très bien que retrouver ou trouver le grand amour à cet âge-là, ça a été une immense liberté par rapport à d'autres âges. Vous dites, vous faites plus partie à 75 ans de gens à qui on attend de participer à la société, d'être dans le collectif quelque part. Passé 60, je ne sais pas quel âge d'ailleurs, en tout cas, votre
oui,
amour...
Oui, ça peut être plus tôt, oui, hein, ça peut être, dans mon cas, ça a été à cet âge-là. Oui, alors vous savez, parce que quand même, une fonction, nous l'avions. Vous savez que les gens nous arrêtaient dans la rue.
Vous aviez une fonction d'amoureux.
Mais oui, les gens, les bonnes femmes, surtout abandonnées, il y en a beaucoup, elles venaient, elles nous touchaient comme si on était des dieux vivants, en disant, alors c'est possible, alors ça existe. Oui, ça existe. Alors, il faut beaucoup d'éléments quand même, il faut beaucoup de préambule pour que le grand amour s'épanouisse. Mais il y a la liberté dedans, et la liberté, c'est pour moi le carburant numéro un d'un artiste. Donc je pense que nous sommes un peu privilégiés, les artistes. C'est ce que disaient les romantiques. Dans toute la littérature romantique, on considère que les artistes sont un peu comme ça, en première ligne pour l'amour, mais c'est vrai. Parce que la base de la création, quelque création que ce soit, c'est l'indépendance et la liberté. Tu peux pas copier ou te laisser influencer ou être comme ça le porte-parole d'autre chose. Il faut être absolument honnête avec soi-même et donc très libre, très très libre. Alors c'est vrai que ce sont des dispositions pour eux.
C'est ce que je me suis dit en vous lisant. Je me suis dit, mais est-ce que finalement ce grand amour, au risque de désespérer plein de gens qui ne se sentent pas artistes, c'est pas aussi l'apanage des artistes, dans le sens où vous en parlez comme d'une œuvre d'art presque, de cet amour. Non, mais c'est vrai, vous en parlez comme quelque chose qu'on travaille, qu'on cisèle, et puis à qui il faut une petite dose de magie.
Effectivement, c'est créatif. Voilà, c'est de la création. Et je pense pas que ce soit à cause de l'âge. Peut-être que... Oh si, quand même. Parce que quand même...
Vous dites quand même...
Avant, j'ai fait quand même beaucoup d'expériences. Ouais. Des choses dont je savais d'avance que c'était pas de ça. Mais que quand même, il fallait que je le vive. Hein. Oh, je suis pas chic hein, pour tous mes amants. Hein, ils sont...
Vous dites quand même que, oui, cet amour à 25 ans, finalement, avec Michel Legrand, ça n'aurait pas été le même. Et puis, vous seriez probablement... vécu chacun dans votre direction, en faisant ce que
Qu'est-ce
vous aviez à faire. Ça sert à rien, mais...
Ça sert à rien. Alors, il faut être tolérant avec le destin. Moi, je pense que le destin, il peut savoir mieux que nous ce qui est bien pour nous. Peut-être que c'était bien qu'on se retrouve si tardivement comme ça. Que peut-être on se serait pas supporté au cours de la vie. Il était très impétueux, avec une carrière colossale. Moi, kiff. Donc, peut-être qu'on se serait pas supporté dans plus les tôt. Années très vives de notre existence. Or, cela dit, lui, il a été quand même impressionnant parce qu'il a travaillé jusqu'au bout.
Il savait qu'il allait mourir. Vous dites qu'il a jamais été presque aussi, pas aussi actif, mais
alors, à la fin de sa vie. Il a eu une pneumonie l'année d'avant. Et là, il en a vraiment bavé. C'était très, très dur. Ça, c'est vraiment une chose qu'il aurait souhaité ne pas traverser. Et après, quand il a compris qu'il ne récupérerait jamais tout à fait, l'idée d'être un vieux monsieur dans un fauteuil, c'était impossible. Et un jour, il a vu que ses mains ne pouvaient plus jouer du piano. Enfin, il pouvait, mais c'était plus ça. Il faisait beaucoup de fausses notes et tout ça. Il a quand même donné ce très grand concert à la Philharmonie. Ça, c'était une ouïe aussi, 2 mois avant de nous quitter. Et au fond, il m'a demandé la permission de partir. Il m'a dit... On ne se parlait pas, vous savez, c'est comme ces choses. Il n'y a pas besoin de parler. C'était un souhait et il voulait... que je l'accompagne et que je sois d'accord. Et que je ne sois pas...
Que vous ne forcez pas.
Que je ne sois pas un obstacle, ni sentimental, ni matériel. Donc, je l'ai beaucoup entouré. Il est mort dans mes bras. Mais je ne peux pas vous dire, ça n'est pas... Tout le monde me dit, ah, alors là, c'est terrible, la compassion, vous êtes triste. Oui, je suis triste. Bien sûr, je voudrais qu'il soit là. Mais c'est tellement extraordinaire ce que nous avons vécu ensemble, même dans les derniers moments. Je peux que être reconnaissante et ne pas regretter d'avoir vécu ces choses-là avec lui.
Oui, c'est-à-dire que la douleur n'est pas du tout à la hauteur du bonheur.
Exactement. Puis vous savez, ce sont des choses d'une telle hauteur. À partir du moment où on entre là-dedans, ces 2 derniers mois que j'ai passés avec lui, il m'a emmenée à son niveau à lui, de ce qu'il était en train de vivre. Et je crois que quand on est là, près de ce passage... incroyable. Alors, il n'était pas croyant, mais il était persuadé qu'on se retrouve après. Il avait cette conviction qu'il y a un après. Bon. Donc, ça l'a beaucoup aidé, je pense. Mais, alors, vous savez, tout le reste devient tellement futile. Les préoccupations, ce que les autres vous disent, tout, c'est zéro à côté de l'intensité de ce qu'on vit à ce moment-là. Et donc, c'est presque un cadeau qu'il m'a fait. Il était en mauvaise santé, vous savez, donc il aurait pu vivre un an ou deux de plus, mais je pense pas qu'il était en mesure physiquement de tenir. Il avait un cœur terrible, hein, parce qu'il a, à un moment donné, quand il a eu une espèce d'arrêt de respiration, on a pu le réanimer. C'est moi qui ai dit, écoutez, on va pas en faire un légume, s'il vous plaît, non, mais...
Le cœur aurait tenu.
Oui, il aurait tenu, mais il était très très costaud quand même, incroyable.
Vous avez écrit « Nous nous préparons à devenir immortels, à ne pas mourir, je dis bien, à entrer dans des mondes suspendus qui n'admettent que les gens qui s'aiment ». C'est ce que vous avez écrit dans...
C'est pas mal. C'est
vous qui avez écrit ça. Ça marche alors ?
Je le crois, oui. Je
ça
crois.
Fonctionne ?
Je crois. Ça fonctionne et puis c'est peut-être utile pour les autres. C'est peut-être bien que j'ai dit ça. Parce que je ne suis pas croyante, hein. Je vous dis tout de suite, moi je suis une vieille
Il y a Jésus juste derrière nous, mais très bien. Je dis, il y a Jésus juste derrière nous, mais je vous crois.
Qu'est-ce qu'il est ?
Voilà, il est là, cette petite icône.
Ah oui, ça c'est l'icône de mariage, parce que vous savez, c'est obligatoire, il faut qu'un enfant porte une icône devant nous. Alors, quelqu'un nous l'a offerte.
Elle est là.
Bon, elle est là, bien sûr. Et puis, il y a l'Oscar à côté, hein, vous avez vu.
Oui, il y en a qu'un,
parce qu'un jour, il l'avait perdu, ou quelqu'un le lui avait volé, ou je ne sais pas quoi, alors il l'a fait refaire, et donc c'est celui-là que nous... À la motte, nous avons les 3 autres qu'il a eu. Et donc cette histoire de qu'est-ce qu'on laisse comme message, comme leçon, je pense que il n'y a rien de mieux que ça, de ne pas avoir peur ni de la vie ni de la mort. Et la mort n'est pas cette chose épouvantable qu'on dit, on va tous y passer de toute façon, mais alors, quand même, ce qui a été formidable, c'est qu'il n'a pas souffert. Il ne souffrait pas, il était parfaitement lucide. Et je crois que le plus grand drame, ce sont les gens qui partent absents d'eux-mêmes. Cette horrible maladie d'Alzheimer, ça c'est catastrophique. Parce qu'on ne communique plus. Ou en tout cas d'une façon tellement
ténue, mais on trouve des chemins.
C'est compliqué. Je pense qu'il existe quand même une communication, mais enfin, très difficile. Et voilà, petitement, si j'ai fait quelque chose de ma vie, c'est ça.
Cet amour est trop grand pour vous deux, en fait, que vous aviez besoin de le partager parce qu'en fait, ça vous dépassait. Enfin, on a l'impression, quand vous en parlez, on parle de quelque chose de quasi mystique. C'était, que vous avez un devoir de transmettre cette
expérience. J'ai eu peur d'être un peu ridicule, mais enfin, écoutez, c'est la vérité. Alors, tant pis, hein, j'accepte d'être ridicule. Je pense que certains mauvais esprits peuvent se dire qu'on s'enfouit dans l'amour, que l'amour est quelque chose aussi comme un bouclier. Non, pas du tout. Pas du tout. Nous, ça nous a au contraire ouvert sur les autres. Hein. Ça n'a pas du tout été ça. Mais quand même, ce qu'il aimait le plus, c'était être seul avec moi. Alors il me disait, assieds-toi, qu'on parle.
Et alors, cet amour, comme vous le dites, il ne vous a pas enfoui quelque part, parce que vous n'avez jamais eu autant de projets qu'à deux. C'est-à-dire que même s'il avait 82 ans, vous êtes lancé dans une nouvelle maison, un endroit où vivre ensemble, des projets professionnels en pagaille. Et puis maintenant qu'il est mort, vous continuez.
Écoutez, il faut que vous sachiez une chose stupéfiante. Mais le grand projet, et je tiens absolument à vous en parler, c'est ce que je souhaitais faire déjà l'année dernière et que, heureusement, je ne l'ai pas fait parce qu'avec la Covid, ça aurait été une catastrophe. C'est le festival Michel Legrand. Je veux faire le prix Michel Legrand surtout, c'est-à-dire un prix qui sera donné à un compositeur de musique de film. Il y aura un deuxième prix pour un compositeur de spectacle vivant. Vous savez, ça touche aussi le ballet, les marionnettes, le cirque. Il y a beaucoup de musiciens qui écrivent des musiques pour le spectacle vivant. Et un troisième qui sera pour un jeune compositeur, une première œuvre. Pourquoi je veux faire ça? Parce qu'il y a un vrai combat idéologique sur la musique de film. Du temps de Michel et de Maurice Jarre, de Delerue, de Morricone, etc. Le compositeur était quelqu'un. C'est-à-dire que le metteur en scène choisissait un compositeur et faisait le film avec lui. Aujourd'hui, les nouveaux cinéastes et les studios, pour pas dépenser d'argent d'abord, parce que ça coûte de l'argent de faire une musique symphonique pour un film, ils prennent des petits bouts. Alors, un petit morceau de Bach, une chanson, un aboiement de chien, une porte qui grince, et on fait une colonne sonore. On ne fait pas une musique de film. Et ça, c'est très dommageable, parce que quand vous réfléchissez à tous les grands films qu'on a aimés, Laurence d'Arabie ou les films russes, il y a toujours un musicien derrière. Parce que c'est très proche, la musique et le cinéma. Et donc, l'époque d'or où Michel Legrand a pu faire ses films, elle n'existe plus. Et avec d'autres, dont Bertrand Tavernier, Jean-Jacques Haneau, beaucoup de gens qui, comme moi, pensent qu'il y a une petite bataille à mener pour qu'on soutienne les compositeurs de cinéma. Vous savez qu'il n'y a pas de prix pour la musique au Festival de Cannes. C'est une honte. Il y a un prix pour César, heureusement, et il y a aussi un Oscar. Il n'y a pas au Festival de Cannes. Donc, cette chose-là est... Je ne sais pas si on y arrivera. Je ne sais pas si on réussira. Je vous donne un exemple. Xavier Dolan, jeune talent, avait demandé une musique à Gabriel Yared. Il en a pris 1 minute et demie. Alors Gabriel Yared lui a dit, écoute, non, c'est pas la peine. Parce qu'il voulait mettre ses petites chansons, des trucs, des choses. Parce qu'ils ont la trouille, n'étant pas mélomanes, ils ont la trouille de donner carte blanche à un compositeur. Vous comprenez?
Oui, c'est-à-dire que c'est tellement prégnant sur un film que si on veut avoir la main sur tout...
Voilà. Il y a une deuxième chose, c'est que maintenant, le son est aux mains des effets spéciaux. John Williams, qui a fait Star Wars, il a dû travailler en même temps qu'un type d'effets spéciaux qui faisait des pshim, ding, ping, tam, brrr, hein, bon. Et donc sa musique, elle est derrière, on n'entend pas. Alors, il y a vraiment un petit combat idéologique sur ça.
Il y a quand même Alexandre Desplat, si je me trompe.
Alors,
pas.
Alors, mais il vient d'en bas, parce que moi je le connais très bien. Et,
il a gagné des Oscars 2.
Bien sûr, heureusement. Mais quand même, il souffre parce que les directeurs de studio, etc., lui posent des conditions très difficiles. Tel instrument, non. Tel, oui. Il faut que ce soit plus court, que ce soit plus long. Ils sont très, très, très conditionnés. Alors, donc, c'est une bataille. Et puis surtout, je voudrais qu'on comprenne que Michel Legrand, c'est un grand compositeur, point. Qui a fait du cinéma, qui a fait du jazz, qui a fait des chansons. Il avait un grand respect pour les chansons, par exemple. Il disait qu'une grande chanson, ça vaut un opéra. Que c'est aussi difficile d'écrire une belle chanson que d'écrire...
Vous avez des exemples de grandes chansons comme ça qui considéraient comme étant des chansons qui valaient un opéra ?
Ah oh, bah lui, il pensait par exemple que avec le temps de Ferré, avec les grandes chansons de Piaf et les siennes quand même, hein, parce que le Moulin de mon cœur, c'est inoubliable. Bon, c'est, et tout ça, c'est en train de se diluer à cause de tous ces moyens, de la technologie, mais aussi d'une époque qui grappille, où on n'écoute pas une musique en entier, etc. Bon. Donc c'est intéressant, moi j'aime bien avoir un petit combat
à mener,
idéologique à mener en même temps. Et puis, je pense que c'est notre devoir de durer dans ces belles choses qui sont en danger en ce moment. Ça vaut pour le cinéma, ça vaut pour la musique, ça vaut pour la littérature. C'est-à-dire, même si je suis le dernier des Mohicans, eh ben, je pense que j'ai une réelle utilité.
Et pour terminer cet entretien, Macha Meryl, je crois que vous avez quasiment répondu à cette question, mais est-ce que vous avez peur de la mort ?
Écoutez, non, j'attends pas qu'elle vienne vite, s'il vous plaît, parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Mais telle que je l'ai fréquentée avec Michel, elle ne m'a pas fait peur, non. Et elle me donne l'idée que plus on a été utile de son vivant, et plus la mort sera grande. C'est-à-dire qu'on se rappellera de vous. Et donc, il faut y penser. Il faut faire des choses qui soient un peu pour toujours.
Vous avez de l'admiration pour ces artistes, pour ces dernières œuvres d'artistes, je crois. Pour
oui, alors moi, c'est un peu théorique.
Les derniers Matisse.
Je sais, comme toutes les théories, elle est sûrement fausse, mais quand même, ça m'amuse. Je trouve que j'aime les dernières œuvres. Je trouve que les artistes, les grands artistes, ils sont meilleurs quand ils sont vieux. Parce que la jeunesse, oh, c'est un état. Ça n'est pas forcément sur les jeunes. Vous savez, c'est ce que disait Cocteau. La jeunesse est gaspillée sur les jeunes. C'est-à-dire que...
Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.
On peut être jeune très tardivement. Et même, on est peut-être un peu plus insolent quand on a des années au compteur. Parce qu'on a plus rien à cirer et qu'on a aussi envie d'être vrai. Et il y a beaucoup de... Comment dire, de conditionnement quand on est jeune. On veut plaire à sa famille, on veut plaire à la société, on veut plaire à la personne avec qui on vit, on veut plaire à ses enfants, on veut être dans les clous, on veut... Et la liberté, c'est un truc tardif.
Merci beaucoup, Macha Meryl.
C'est moi qui vous remercie.
Un grand merci à Macha Meryl. Et en l'écoutant parler de son amour, aussi sans doute de son amour de l'amour, je peux pas m'empêcher de penser à ce grand classique de Leonard Cohen que je vous conseille d'écouter pour clore ce moment avec Macha Meryl, Dance With Me Until The End Of Love, où il dit, je traduis littéralement, nous sommes tous deux indignes de notre amour, nous sommes tous deux au-delà de notre amour. Vieille Branche est une émission de nouvelles écoutes présentée par Marie Misset. Mixage, Laurie Galligani. Réalisation, coordination et prise de son, Marine Roux. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles sur Apple Podcasts, à nous suivre et à nous écrire sur Twitter, @_vieillebranche, ou alors sur Instagram, @vieillebranchepodcast.
À bientôt dans Vieille Branche.